C'est une structure colossale que les astrophysiciens ont baptisée Hyperion, en référence au titan de la mythologie grecque. C'est dire si la découverte de ce super amas de galaxies les a impressionnés. Caroline Tourbe, on en parle avec notre invité.
Oui Mathieu, aujourd'hui nous sommes avec Olivier Lefebvre, en duplex depuis les bureaux de Radio France à Marseille. Bonjour.
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 Merci pour votre invitation.
Vous êtes chercheur au laboratoire d'astrophysique de Marseille, le LAM, et vous avez largement participé à la découverte d'Hyperion. Alors j'ai une première question toute simple, c'est quoi un super amas de galaxies ?
Alors un super amas de galaxies, c'est un endroit dans l'univers où on a beaucoup de galaxies qui se regroupent. Et on essaye de comprendre comment ce type de structure peut se former dans les premiers instants après le Big Bang.
Et alors, Hyperion, qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce titan cosmique, par rapport aux autres super amas de galaxies qu'on a déjà observés ?
Alors là, c'est la particularité, c'est qu'on observe un super amas très tôt dans la vie de l'univers, donc seulement 2 milliards d'années après le Big Bang. Et donc, on a l'opportunité de voir une de ces superstructures en train de se former. Et la particularité vraiment extrême, c'est que cette structure a une masse de 1 million de milliards de fois la masse du Soleil, ce qui est considérable à cette époque de l'univers. Voilà, donc c'est la particularité qui nous a choqué quand on a découvert cette structure.
Donc Hyperion est à la fois très jeune, il date d'une époque très reculée, peu de temps avant le Big Bang, et il est également bien plus massif qu'attendu. Il a aussi une structure, une forme particulière.
Alors déjà, c'est une structure très étendue hein, qui fait 300 millions d'années-lumière, hein, c'est considérable. Il faudrait à la lumière 300 millions d'années pour aller d'un bout à l'autre. L'action de la gravité, qui est la force principale dans l'évolution de l'univers, a pas encore eu le temps de faire son œuvre. Et on observe une structure qui est relativement peu dense, comparée au super amas qu'on observe dans l'amas local. Et donc cette structure, elle est en train de se former. C'est ça qui est très intéressant. On observe les premiers stades d'évolution des plus grandes structures de l'univers.
Et ça, pour des astrophysiciens, c'est unique en soi comme modèle d'observation, Olivier Lefebvre, cette formation là sous vos yeux.
Oui, alors on est chanceux, astrophysiciens, c'est qu'on peut remonter dans le temps hein, grâce à la propagation finie de la vitesse de la lumière. Et donc on a le privilège d'observer ce qui se passait seulement 2 milliards d'années après le Big Bang. Aujourd'hui, l'univers a 13,8 milliards d'années. Et voilà, entre ces 2 milliards d'années où on observe Hyperion et puis les amas, les super amas locaux comme le super amas de la Vierge, eh bien on essaye de comprendre quel est le fil d'évolution qui relie donc les structures très jeunes aux structures évoluées qu'on observe aujourd'hui.
Donc avec
le livre d'histoire.
Avec l'observation d'Hyperion et les autres super amas de galaxies que vous avez repérés, c'est un peu comme si vous aviez une photo avant-après. Ça permet de comparer, de mieux comprendre l'évolution.
Voilà, on essaye de comparer des structures comparables à différentes époques de l'univers pour voir comment elles ont évolué et comment les effets d'environnement, donc les endroits où on a beaucoup plus de galaxies, influent sur l'évolution de galaxies comme la nôtre. Vous savez que notre galaxie, la Voie lactée, a plusieurs milliards d'étoiles. Et elle a été façonnée en fait par l'environnement dans lequel elle réside. Et donc on essaye de comprendre quels sont comment les effets d'environnement ont pu acter tout au cours du temps cosmique.
Et comment est-ce qu'on s'y prend pour observer un tel super amas ? Vous avez utilisé un outil installé sur le VLT ?
Oui, alors c'est un spectrographe qui s'appelle VIMOS, hein, qui a été réalisé par un consortium européen piloté par le LAM, dont j'étais responsable. Et c'est un spectrographe qui permet de mesurer les distances. En fait, ça mesure ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. Et par le modèle d'univers, ça nous permet de donner une distance. Et on fait une cartographie à trois dimensions d'une région de l'univers. Et donc, en faisant cette cartographie, on est tombé sur cette structure extrême.
Donc, en fait, vous n'avez observé pour l'instant qu'un tout petit bout du ciel ? Mais vous avez eu de la chance, vous êtes tombé sur Hyperion.
Oui, on peut dire ça comme ça, c'est effectivement de la chance. La chance provoquée, on va dire, parce qu'on a mis en œuvre des moyens quand même assez lourds. Et les observations ont demandé 640 heures d'observation sur le télescope du VLT au Chili. Mais effectivement, c'est seulement 1 degré carré du ciel qui a été observé, alors que le ciel a plus de 40 000 degrés carrés. Donc vous voyez le potentiel de découverte qui existe si on a la capacité d'aller chercher de structures similaires dans d'autres régions du ciel. Et en particulier, on a une manip avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui s'appelle Euclide, qui permettra d'aller chercher des hyperions dans des zones beaucoup plus grandes d'univers, et on espère en trouver encore beaucoup.
Est-ce qu'il y en a des milliards et des milliards de ces amas de galaxies ou pas, Olivier Lefebvre?
Alors non, c'est vraiment des structures extrêmes. Hein, et donc là, on peut dire qu'on en a trouvé une dans un degré carré. Donc peut-être qu'on en trouvera 40 000 si on est capable d'observer 40 000 degrés carrés du ciel. Donc vous voyez que c'est relativement rare, très rare. Et la question qui va se poser, là, on en a trouvé une structure. Elle est très massive. Si on continue à trouver beaucoup de ces structures, ça peut nous forcer à reconsidérer certains des modèles cosmologiques.
Parce qu'a priori,
on n'en est pas là, mais
oui, Hyperion correspond pas exactement à ce à quoi on pouvait s'attendre. C'est-à-dire, il à l'âge qu'il a, normalement, il n'aurait pas dû être aussi énorme et aussi massif.
Exactement. Voilà. Ça peut être un événement extrême.
Oui, c'est peut-être un accident.
C'est peut-être un accident, voilà. Et après, c'est une question de statistique, c'est-à-dire que si on observe beaucoup de structures similaires, on va se gratter la tête et se dire peut-être qu'il y a des choses à modifier dans nos modèles.
Alors, Hyperion, est-ce le titan de l'espace? Est-ce qu'il a des frères? Est-ce qu'il a des sœurs? Vous avez une dizaine d'années encore d'expérience, d'observation pour savoir si c'est le cas et si ça peut aller jusqu'à peut-être mettre en cause le modèle cosmologique standard?
Oui, ou du moins l'ajuster. Hein. La remise en cause, elle est toujours difficile à mettre en œuvre, mais sûrement, si on trouve plusieurs Hyperions, il va falloir qu'on ajuste le modèle et certains de ses paramètres fondamentaux, comme par exemple le taux de croissance des structures qui est piloté par la gravité.
Et est-ce qu'à l'échelle de...
Il y a des modèles de gravité modifiés qui pourraient expliquer comment des structures aussi massives se forment très tôt.
Est-ce que, Olivier Lefebvre, ce sera ma dernière question, à l'échelle d'une vie d'astrophysicien, cet amas de galaxies va beaucoup évoluer ou pas?
Alors oui, justement l'action de la gravité est continue sur la vie de l'univers et donc on s'attend à ce que les condensations qui sont relativement peu prononcées observées dans Hyperion deviennent de plus en plus denses au cours de la vie de l'univers. Et donc si on était capable de revenir dans 11 milliards d'années pour observer Hyperion tel qu'il sera dans 11 milliards d'années, on l'observera avec une structure très différente et beaucoup plus condensée.
Merci beaucoup en tout cas pour vos explications à l'occasion donc de la découverte de ce super amas de galaxies. Olivier Lefebvre, vous étiez en direct des bureaux de Radio France à Marseille. Merci à vous et Caroline, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le plus long pont du monde inauguré en Chine. Il mesure 55 km de long, soit 25 fois plus que le viaduc de Millau. Il relie Hong Kong à Macao. Il aura fallu attendre et surtout 20 milliards d'euros et plus de 9 années de travaux pour achever sa construction. L'ouvrage en effet nécessitait la création d'un tunnel sous-marin et d'îles artificielles, mais désormais c'est fait. Il ne faut plus qu'une heure de route pour rejoindre Macao depuis Hong Kong, contre 4 auparavant. Notre microbiote met plus de 6 mois à se remettre d'un traitement antibiotique. Une étude menée à l'université de Copenhague montre que les bonnes bactéries qui peuplent nos intestins peuvent être totalement éradiquées lorsque nous prenons justement ces antibiotiques et qu'elles ont bien du mal à reprendre le dessus. Les chercheurs danois ont administré 3 types d'antibiotiques à des volontaires en bonne santé. 6 mois après le traitement, les bonnes bactéries avaient bien recolonisé leur intestin, mais certaines familles bactériennes manquaient toujours à l'appel. Les auteurs estiment que l'usage des antibiotiques doit être raisonné car il modifie durablement la diversité et l'équilibre de notre écosystème intestinal. Et puis un enfant néandertalien dévoré par un rapace géant, c'est l'hypothèse incroyable proposée par une équipe de l'université de Jagellonne à Cracovie. Les chercheurs ont analysé les petits bouts de phalanges néandertaliens retrouvés au milieu d'un grand nombre de restes d'animaux dans la grotte de Siemna en Pologne. Ces phalanges seraient celles d'un enfant de 5 à 7 ans et surtout elles portent des traces qui indiquent que ces ossements seraient passés par le système digestif d'un oiseau géant.